بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شفاء الإسلام toutes les louanges reviennent à الله عز وجل qui, dans sa clémence, nous accepte ce soir pour prendre part à une assemblée où on va essayer de connaître un peu mieux Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas plus noble assemblée que celle où le croyant essaie de se rapprocher d'Allah. Il y a à cet instant, à l'instant T, énormément d'assemblées qui ont lieu dans le dunya. Certains se réunissent pour la politique, d'autres se réunissent pour certaines idéologies, d'autres pour des raisons mondaines, ce qui n'est pas interdit. Mais la meilleure des assemblées, c'est lorsqu'on est assis, et idéalement, fi baytin min buyutillah, dans une maison parmi les maisons d'Allah. C'est-à-dire là, on est déjà dans un des meilleurs endroits au monde, la maison d'Allah, Azza wa Jal. Tous les masajid sont les maisons d'Allah. Et dans une assemblée couverte des malaïka, avec la présence des anges, qui sont là pour écouter et observer qui sont les personnes qui ont consacré un peu de leur temps pour s'asseoir et prendre part à une assemblée religieuse. Ainsi, celui qui parle a autant besoin de ces bénédictions-là que ceux qui écoutent, et peut-être plus encore. Parce qu'avant que vous seriez jugé à propos de ce qu'on vous aura transmis, je serai moi-même jugé en premier parce que la connaissance que je vous transmets, je l'ai en moi, bi'idhnillah. C'est toute l'importance et la nécessité qu'il y ait une cohérence également entre ce que nous disons, ce que nous écoutons, et la façon dont nous allons vivre nos ayam dunya, nos jours de ce dunya. Ainsi donc, on se réunit le mardi soir avec pour objectif unique d'apprendre les noms d'Allah Azza wa Jal et d'essayer de mieux connaître Allah. À partir du moment où un croyant connaît Allah Azza wa Jal, il trouvera une dévotion et une concentration exceptionnelle dans ses prières. Il trouvera la dévotion et la concentration dans toutes ses bonnes actions. Et son cœur sera attaché aux bonnes œuvres. Et lorsque le cœur du croyant est attaché aux bonnes actions, lorsque le croyant commence et apprend à aimer Allah à travers ses bonnes actions, il ne le fait plus par routine, mais il le fait par soumission à Allah Azza wa Jal. Son cœur en même temps se détache des péchés. Et il est plus facile et il est plus aisé pour cette personne que de s'éloigner de tout ce qui est haram. Ainsi, on arrive à l'objectif final de la pratique du dîn, c'est la taqwa, la piété. Cette piété, c'est de vivre sa vie de musulman et ne jamais se mettre dans une situation où Allah serait mécontent de nous. An taj'ala baynaka wa bayna Allah hijab. Mets une barrière entre toi et la colère d'Allah. Fais en sorte que jamais Allah ne te voit dans une situation d'abandon de bonnes actions, d'obligations, ou une situation où tu as accepté un péché. Ça veut dire, essaie d'orienter ta vie avec cette conviction qu'Allah, muttali'un alayk, qu'Allah est au-dessus de toi, te voit et t'entend. Mais ce sont là des réalités qui sont, je ne vais pas dire qu'ils sont abstraites, mais qui sont difficiles à intégrer. Parce que nous vivons dans un monde qui est régulé par les lois de ce dunya, les lois de ce monde. Les lois de l'argent, les lois du temps, les lois de ce que nous valons sur le marché en termes de diplôme, en termes de qualification, en termes de ce que nous représentons, nos familles, quel nom nous portons et quel est notre impact dans la vie de la société. Nous vivons dans un monde qui fonctionne comme ça. Nous vivons dans un monde où les valeurs du dunya ont pris tellement d'ampleur que cela nous a fait oublier des choses essentielles. Et parmi les choses essentielles que nous avons malheureusement oublié, c'est cette fameuse notion de taqwa, de piété, qu'on vient d'expliquer, et que nous allons retrouver au centre de notre intervention concernant le karam d'Allah, la générosité d'Allah Azza wa Jal. Nous allons voir ce soir, nous allons essayer de nous attarder un petit peu sur le verset « Inna akramakum indallahi atqakum » et essayer de voir quatre avis, quatre tafsirs de contemporains qui nous permettent de réaliser que ça fait partie des versets clés. Qu'est-ce qu'on appelle un verset clé? C'est ce genre de verset que si tu as compris et tu as mis en application dans ta vie, tawakkal ala Allah. Tu peux avancer, tu peux vivre, quelles que soient les difficultés, les épreuves, quelles que soient les tentations, les sources de péché autour de toi, tu sais que tu avances dans le salat al-mustaqim jusqu'à ce que l'ange de la mort vienne reprendre ton âme et tu quittes ce dunya avec ces versets, avec ces pratiques. Avant d'entrer dans... Là, j'ai très envie de faire un hors-sujet parce que il y a des fois où dans notre existence, Allah Azza wa Jal envoie des personnes qui vous marquent profondément. Des personnes qui sont de ce dunya comme une guidée pour vous. Et nous avons tous besoin parfois de nous identifier et de voir le modèle prophétique à travers des personnes pieuses. Ça peut être des savants, ce n'est pas forcément des ulama, mais des gens qui réincarnent vraiment les valeurs de l'islam. Et justement, en parlant de ce verset « Inna akramakum indallahi atqakum » qui est un verset clé, à mon sens, si on devait faire une liste de versets clés, il y aurait également « Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah »« Inna akramakum indallahi atqakum » Avant que j'oublie la traduction, c'est « le plus noble d'entre vous ». Qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un de noble de ce dunya? Quand on veut demander, on ne parle plus de noblesse, mais dans le cœur des gens, dans la compréhension des gens, une personne noble, c'est quelqu'un qui a un rang de la société, c'est quelqu'un qui a un poste, ainsi de suite. Mais pour Allah Azza wa Jal, inna akramakum, les plus nobles, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Et ce verset vient, ce verset vient après un autre passage qui, on pourrait dire, qui est un verset fondamental dans l'égalité des races, l'égalité des hommes. C'est « Ya yuhannas wa inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uba wa qaba'ila » Et l'objectif c'est « Lita'arafu ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. » C'est-à-dire qu'Allah Rabbul Izza nous annonce qu'il nous a créés différents. L'être humain, c'est une créature, mais il y a différentes races. Il y a des personnes de différentes couleurs, de différentes ethnies, de différentes cultures. Et cela est cité et approuvé dans ce verset. Mais l'objectif de cette diversité, c'est quoi? C'est que les hommes apprennent à se connaître. Déjà là, on a un message très fort, c'est l'union des cœurs. C'est un refus total de tout ce qu'on peut appeler de racisme. Un refus de la xénophobie, un refus de n'importe quel sentiment antisémite, un refus de n'importe quel sentiment bien sûr islamophobe, ou le simple fait de détester son prochain. Le simple fait de détester une personne, que la personne soit de notre famille, qu'elle ne soit pas de notre famille, qu'elle parle notre langue ou non. C'est-à-dire que Allah nous a créés différents, avec des modes de vie différents, mais le but c'est que les gens apprennent à se connaître. Et quand on apprend à se connaître, on essaie de donner à notre prochain ce qu'on a de plus cher, ce qui compte le plus pour nous. Et ça, c'est la générosité du croyant que de vouloir partager son bonheur avec tout le monde. Et le plus grand bonheur qu'on partage avec notre prochain, c'est Al-Iman Billah, notre foi en Allah. Ainsi, si j'ai un collègue de travail qui n'a pas les mêmes convictions que moi, mais une personne avec qui je m'entends parfaitement, on prend le petit déjeuner tous les jours ensemble, la pause du déjeuner, je ne dis pas la pause cigarette, qu'Allah nous protège de ce fléau, la pause, déjeuner, on la prend ensemble, et ainsi de suite, c'est une personne avec qui on a des liens très forts, beaucoup de muhabba. Mais si vraiment tu as de la muhabba pour cette personne, tu dois être capable un jour, avec hikmah, avec sagesse, de lui montrer la voie du haqq, la voie de la vérité. Lui expliquer le ni'ma, le bienfait qu'Allah accorde et la tranquillité que le croyant trouve dans son cœur lorsqu'il a attesté qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah. C'est le plus beau cadeau qu'on peut accorder à une personne qui nous est chère. Ainsi ce verset, sans trop perdre le fil, ça fait partie des versets clés. À mon sens, si on l'intègre, on vit en parfaite harmonie avec toute personne de notre société. On vit en parfaite harmonie parce que c'est deux versets qui refutent totalement, comme on a dit, le racisme et le fait que les différences d'ethnie, ainsi de suite, font que certaines races seraient supérieures à autres. Aucunement. Parce que la conclusion de ce verset, c'est « Inna akramakum indallahi atqakum » Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. C'est-à-dire que le plus noble, ce ne seront pas les Arabes, forcément. Même si Allah Azza wa Jalla a choisi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parmi les Arabes de la tribu de Quraysh, parmi les Banu, Hashim, parmi la lignée la plus noble des Arabes, mais ça ne fait pas des Arabes une race supérieure. Il n'y a en fait aucune race supérieure ni de race inférieure. Il y a atqakum, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah et le plus pieux. Ainsi, Bilal ibn Rabah, radiallahu anhu, esclave, descendant d'esclaves, éthiopien de peau noire, et Allah seul sait à cette époque, à l'époque de Jahiliya, à l'époque de l'ignorance, chez les Arabes, comment est-ce que le rang, la noblesse était quelque chose d'extrêmement important. C'est comme en France avant, on parlait de noblesse, hein, on parlait de noblesse, de la bourgeoisie, etc., ainsi de suite. La noblesse, c'était les nobles, même s'ils étaient peut-être moins aisés que d'autres couches de la population, les bourgeois par exemple, mais le sang bleu, le sang noble, c'était important. Chez les Quraysh, c'était pareil. Il y avait des gens qui avaient le droit de donner leur avis. De les mashwara, c'était ceux qui étaient issus de grandes tribus. Ceux qui ne venaient pas d'une grande tribu n'avaient pas leur mot à dire. Mais Bilal ibn Rabah, qui n'était même pas arabe et de peau noire et esclave, descendant d'esclaves, il a eu un rang supérieur aux autres par son amour pour Allah, par son sacrifice pour Allah et par le fait que, subhanallah, c'était un des plus pieux. Que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Oh Bilal, j'entends les pas, j'entends tes pas de le Jannah. J'entends tes pas dans le Jannah. Dis-moi quelle bonne action tu fais pour qu'Allah me fait entendre à moi, Nabiullah, tes pas dans le paradis. C'est-à-dire qu'avec ces versets clés, on arrive à montrer à l'humanité, et de façon très claire et tout en étant très fier, montrer à l'humanité le principe de wahda, le principe de fraternité et d'égalité qu'il y a dans notre dîn, et c'est un des messages clés de la révélation. Parmi ces messages clés, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, le verset qui rappelle notre retour auprès d'Allah, il suffit qu'un croyant intègre ce verset et le prenne comme guide durant toute sa vie, et je vous assure que dans n'importe quelle situation de péché, ce verset-là te sauve. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum, c'est lorsqu'on ressent un peu de fierté par rapport à nos origines ou par rapport à notre richesse, par rapport à notre rang, où on se sent supérieur aux autres. Le verset qui fait ton tazkiya, qui t'éduque et qui te ramène vers les réalités, vers la vision d'Allah plutôt que notre simple vision d'humain, c'est inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Et commenté par les hadiths que le blanc n'est pas supérieur au noir, l'arabe n'est pas supérieur au non-arabe, et ainsi de suite, différents exemples cités par le prophète, si ce n'est pas là, par la piété. Ça, c'est un verset, ce sont des hadiths, qui nous recadrent, qui recadrent n'importe quelle personne dans les situations où on prend de haut son prochain. Il n'y a rien de pire qu'une personne qui te prend de haut, oui ou non. Il n'y a rien de pire. Qu'on ait raison, qu'on ait tort dans un conflit, on peut accepter. Mais qu'une personne se sente supérieure à toi et te le fait comprendre par ses paroles, ça, c'est quelque chose qui est inacceptable. On peut presque appeler ça un crime contre l'humanité, parce qu'il remet en cause le principe de création des êtres humains. Le verset qui nous permet de nous éloigner des péchés dans les situations de tentation, c'est « Craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah ». Et un verset qui doit nous encourager à rester fermes sur le droit chemin, c'est « Inna alladhina qalu Rabbun Allahu », ceux qui disent que notre Seigneur c'est Allah, thumma istaqam, et ensuite reste ferme. Et la suite du verset, tatanazzalu alayhim almalaikatu wa la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah ila akhir al-aya. Et ce verset rappelle que ces personnes-là qui ont dit qu'il n'y a pas de Dieu à part Allah, qui sont restées fermes jusqu'à leur mort, le sens du verset c'est qu'au moment de mourir, les anges viennent et te rassure, la takhaf ou la ta'zanu. N'aie aucune crainte et aucune tristesse. Oui, troisième bonne nouvelle, wa abshur bil jannah. Ayez la bonne nouvelle, reçois la bonne nouvelle du paradis qu'Allah t'a promis. Ça, c'est les bonnes nouvelles que nous recevons au moment de mourir. Et ikhwani fillah, si une personne prend un de ces versets et en fait son leitmotiv, il prend ce verset comme enseignement principal de sa vie, on a grand espoir que ce verset l'accompagne jusqu'à ses derniers instants. Pourquoi je vous dis ça? On a reçu la visite il y a quelques jours d'une délégation venue de Riyad. Ça s'est fait de la discrétion. Il n'y a rien de mieux que la discrétion. Ce sont les responsables du concours Hajj qui étaient à l'île Maurice et de passage deux jours à la Réunion, alhamdoulilah. Et on a eu l'occasion, il y a une trentaine, une quarantaine, on pourrait plus, une cinquantaine de personnes ont eu l'occasion de les côtoyer durant ces deux jours. Bien sûr, ils n'étaient pas venus pour faire des discours, mais pour voir un petit peu l'organisation du Moussabaqa et tout ce qui concerne les invités pour le Hajj, ainsi de suite. Mais les gens ont été surpris de découvrir deux savants, deux cheikhs, deux alims, avec un niveau de science qui était tout simplement impressionnant. Et au-delà de cette science débordante, ce qui revient du témoignage de tous ceux qui l'ont côtoyé sans exception, c'est qu'ils ont décelé à travers leur parole une sincérité omniprésente. Et je vous l'assure, je vous le jure, bidouna mubalara, sans exagération, c'était quelque chose de palpable. Et je voyais cette sincérité comme je vous vois, ou comme je me vois à travers un miroir. C'est extraordinaire. Et quelques jours avant, je lisais le hadith qui rappelle que, et c'était pas dans un endroit noble que je lisais, c'était sur Facebook, quelqu'un l'avait mis, mais parfois ça vous fait des petits rappels, que lorsqu'une personne accomplit une action par ostentation, qu'est-ce qui se passe? Allah crée une situation que les gens finissent par le démasquer. Hadith. Quand quelqu'un accomplit une action pour faire voir aux gens. Pas pour Allah, il n'y a pas d'ikhlas. C'est par riya, suma, shuhra, pour faire voir aux gens. Allah le fait voir aux gens. C'est-à-dire que les gens perçoivent que cette personne n'est pas sincère. Et même ce qu'il a pu faire comme discours, comme prêche, ou comme effort, ou comme investissement financier pour le dîn d'Allah, ben, il déjà ne trouve pas de récompense. Mais ce ne sera pas quelque chose qui, si c'est un investissement, sera profitable pour les gens. Mais si c'est une prêche, une da'wa, il n'y aura pas d'effet direct sur les cœurs. Ça, c'est ma vision des choses, parce que la personne, à la base, son amal n'était pas sincère. Donc le hadith le rappelle. Et donc, en contrepartie, lorsqu'une personne est sincère, cet ikhlas, cette sincérité, elle est palpable. J'ai eu l'occasion de faire un dîner et de réunir les anciens invités et certains ulama et les personnes qui nous sont chères. Vous êtes tous très chers, sans le moindre doute. Et une personne qui ne parle pas un mot d'arabe, à la fin de l'assemblée, enfin même pas le lendemain, me trouve, il me dit, lorsque ces personnes parlent en arabe bien sûr, avant même que tu traduises. On a compris que salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh et bismillah, on a compris jazakallah et rien de plus. Le reste était en arabe, c'était en fusha, on n'a rien compris. Il dit que lorsqu'il parlait, avant même que tu ne traduises, ces paroles-là étaient déjà déposées dans nos cœurs. Et c'est une personne qui est, on va dire, quelqu'un qui est un peu spécial, qui a un caractère un peu très fort, qui ne se mélange pas aux assemblées religieuses et qui ne fréquente pas beaucoup les ulama. Une personne de ce rang, entre guillemets, et de cette catégorie, entre guillemets, qui me l'a dit, moi ça m'a profondément touché et ça m'a convaincu sur le fait que lorsque tu es sincère, que tout ce que tu fais c'est lillahi, uniquement pour Allah, la moindre parole, et ce qu'ils avaient dit, il n'y avait rien d'extraordinaire. Ils ne nous ont rien appris de nouveau. Que soit leur intervention de ce dîner ou une intervention au centre islamique avec quelques ulama ou la madrasa de Tahfidh al-Qur'an, ils n'ont rien dit de nouveau. Je n'ai rien appris en plus. Il n'y avait pas un hadith, un nouveau hadith, aucunement. C'était des choses claires qu'on connaissait. Mais ça venait de cœur tellement sincère qu'on avait les larmes aux yeux. Et au moment de traduire, des fois, on avait du mal à se contenir. On se retrouvait à dire des phrases simples, des phrases qui prennent 7 secondes, sujet, verbe, complément, mais il y avait une telle lumière qui se dégageait de leur discours que ça touchait mon cœur et je voyais la réaction des gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est mukhlis, c'est quelque chose qui se perçoit et cette da'wa, elle atteint son objectif. Alors, dans cette délégation, il y avait une personne qui s'appelait Cheikh Uthman. Et dans le trajet, je vous raconte cette histoire parce que c'est en rapport avec le verset qu'on a cité. Il m'a raconté le décès de son père. Il m'a expliqué comment est-ce que son papa est décédé, là-bas à Riyad. Il dit qu'il devait aller au Rwanda. Rwanda, c'est dans quel continent? On est tous d'accord. Il devait aller au Rwanda. Et parenthèse, ce qui distingue ces personnes, c'est le ikhlas, parce qu'ils ne communiquent jamais sur ce qu'ils font. Pas de WhatsApp, pas de réseaux sociaux. Pas de Facebook, pas de Twitter, rien. Tout ce qu'ils font, c'est entre eux et Allah. Il n'y a aucune trace. La seule trace qu'on avait un peu, c'est dans les journaux mauriciens il y a quelques jours. Autrement, ils ne communiquent pas. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui distingue ces gens? C'est le mujahada, le sacrifice et l'effort. Ils sillonnent toute l'Afrique. Ils ont fait 47 pays d'Afrique. Et ils vont de pays en pays pour la da'wa, ramener les gens vers le droit chemin. Et en plus de la da'wa, ils font de l'humanitaire. Parce qu'ils ont cette vision qui est celle du Qur'an. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Parmi les premières qualités du croyant, de l'homme pieux dans la sourate Al-Baqara, il y a ومما رزقناهم ينفقون, et qui dépend de ce que nous leur avons donné. C'est-à-dire que tu ne peux pas être un muttaqi uniquement avec de bonnes paroles. Tu vas en Afrique, et il m'a dit, dans les 47 pays d'Afrique qu'ils ont visités, le summum de la pauvreté, c'est quel pays? Nos voisins de Madagascar. Ils ont fait l'Afrique, mais ils m'ont dit Madagascar, Allah musta'an. C'est une situation beaucoup plus complexe que les autres pays d'Afrique. J'ai dit, mais les îles Comores. Il m'a dit, les îles Comores, c'est 5 étoiles par rapport à Madagascar. Ajib, j'ai jamais été dans aucun de ces deux pays, donc je ne peux pas vous dire plus. Et donc, le Mujahada, là ils sont partis avec des médecins, avec subhanallah, c'est tout un khidma qu'ils donnent aux gens, ils construisent des puits, ils construisent des mosquées. Et donc ça aussi, cette personne devait aller au Rwanda, il avait déjà réservé son billet de Riyad jusqu'à, il me semble, Addis Abeba, Éthiopie, ça, Addis Abeba il me semble, Éthiopie, ouais. Hein? Éthiopie, et Addis Abeba donc au Rwanda. L'agence de voyage l'appelle, lui dit que ta réservation est annulée. Personne dit, comment ça s'est annulé? Ça n'existe pas une réservation qui est annulée. Dites-moi, est-ce qu'il y a un problème, il y a un météorologique ou problème d'appareil? Il dit, non, c'est annulé. Ça n'apparaît plus sur l'écran. La personne était très en colère. Elle dit que ça, c'est un scandale, c'est inacceptable, et ainsi de suite. Et donc, il devait aller au Rwanda, sa réservation est annulée, alors que tout le reste du groupe qui devait se rendre dans ce pays, leur réservation, elle était toujours là. Il ne comprend pas. Et il n'a pas pu refaire son billet. Il a raté donc le vol avec ses amis. Et beaucoup de tristesse, beaucoup de remords. Mais subhanallah, il me dit que le jour où il devait voyager, et qu'il n'a donc pas eu sa réservation, le jour du voyage prévu, son père fait un malaise. Et il l'emmène à l'hôpital. Il m'a dit que là, les choses vont s'accélérer. Il m'a dit que c'était comme dans un film où en 15 minutes, on peut avoir une situation qui chamboule complètement. Il m'a dit en 15 minutes, son père est passé d'un état de santé à un autre. C'est vraiment, comme on dit, quand l'ange de la mort vient, il y a soit une longue souffrance, soit une souffrance qui est réduite, mais les choses s'enchaînent pour que l'âme puisse sortir. Il m'a dit que je l'ai vu de mes yeux, cet enchaînement entre une situation où la personne est en parfaite santé, où il y a le début du problème, jusqu'à ce qu'il quitte ce dunya, c'était là l'organisation d'Allah Azza wa Jal. Et puis il donne des détails, il dit que son père était déjà âgé, et c'est là le verset qui nous intéresse. Il dit que dans ses derniers jours, il dit que mon père n'arrêtait pas de lire en boucle un verset. Il le lisait. Il a dit, même quand il allait aux toilettes, il le lisait. Et on était juste dire, papa, arrête, ça c'est haram, dans les toilettes, ne lis pas. Dans les toilettes, ferme ta bouche, ne lis pas. En sortant, tu pourras relire. C'est le seul endroit où on n'a pas le droit de lire le Coran. Et quel est ce verset qu'il lisait sans arrêt? Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqam. Le verset qui stipule que ceux qui disent qu'Allah est notre Seigneur, il reste droit sur le droit, et qu'il reste sur le droit chemin, que les anges viennent, lui rassurent au moment de la mort, c'est le verset qu'on a cité tout à l'heure. Et il m'a dit, Wallahi, jusqu'à ce qu'on mette le masque d'oxygène sur le visage de mon père, jusqu'à cet instant-là, il continuait à lire ce verset. Je veux dire que les dernières paroles qu'il a prononcées de ce dunya, c'était ce verset. Et ça, c'est quelque chose qui est, moi je vous le raconte, c'est pas aussi profond, mais quand lui, il le dit, on sent vraiment que c'était une personne qui a pris ce verset à cœur et qui a fait en sorte de rester dans le droit chemin jusqu'à ses derniers instants. Et quel honneur il a reçu de la part d'Allah de pouvoir lire ce verset. Et ce n'est pas un jour ou deux qu'il lisait. Il dit que son père ne faisait que ça. Il le lisait, il le répétait sans arrêt et rien d'autre que ça. Et il a quitté ce dunya. Les derniers moments où il était conscient, c'était en lisant ces versets. Et nous implorons Allah bi asma'il husna wa sifatil ula de nous accorder à nous aussi l'honneur de quitter ce monde avec cet honneur, avec autant d'izza. Quitter ce monde avec l'honneur, c'est pas quitter ce dunya alors que les gens te considèrent comme le meilleur, comme le plus riche, comme le plus noble, comme le plus important. Là, wallah, c'est que tu quittes ce dunya et qu'Allah est satisfait de toi. Tu quittes ce dunya dans une situation où tu es dans une spirale de bonnes œuvres et tu as fait une croix sur les péchés depuis des années. et que tu ne dois de l'argent à personne et que ton devoir envers Allah est accompli et que tes devoirs envers les gens également s'est accompli. Et ça, c'est la consécration pour un être humain que de pouvoir mettre en application ces versets clés et les garder comme un mode de vie jusqu'au dernier jour de ce dunya. Depuis quelle heure on a commencé ? 8h30, encore 5 minutes, Inch'Allah. On complète les 30 minutes. Donc, et cette sincérité-là, je vous assure, que lorsqu'il s'adressait aux enfants qui apprenaient le Coran par cœur, il leur disait des choses, mais on n'a pas enregistré, dommage. Mais il disait que ce que vous êtes en train de faire, c'est la meilleure des actions. Vous êtes en train de mémoriser la parole d'Allah. C'est grâce à des enfants, des gens comme vous, que le Coran reste protégé. Et tout le monde était impressionné, c'était poignant comme discours, mais comme je vous dis, il n'y avait rien de nouveau, mais il y avait une ikhlas, une sincérité, et qu'Allah nous accorde cette sincérité qu'on retrouve à la lumière de ces versets. Donc on revient à Inna akramakum indallahi atqakum. Pourquoi Inna akramakum? Parce qu'on était en train d'étudier les actions que le croyant doit accomplir pour bénéficier de la générosité d'Allah. Dans un premier temps, on avait vu quelques signes, manifestations de la générosité d'Allah pour ses créatures. Maintenant, qu'est-ce que moi, je dois développer comme action pour bénéficier de ce karam d'Allah, de cette générosité d'Allah Azza wa Jal? Sahl ibn Sa'd radiallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wa salam a dit « Inna Allah karimun yuhibbu al-karam wa yuhibbu ma'ali al-akhlaqi wa yakrahu sifsafaha » Dans ce hadith rapporté par Tabrani et qui a été authentifié par Albani, rahimahullah, il est rapporté qu'Allah Azza wa Jal est généreux et qu'Allah aime le croyant qui a un caractère karam, un caractère noble. Wa yuhibbu ma'ali al-akhlaq. Allah aime les personnes qui ont un haut niveau de akhlaq, un haut niveau de comportement. Il y a des gens qui, dans les échanges, quand vous discutez avec eux, même si vous n'avez pas fait de commerce ou de transaction avec eux, mais à travers quelques échanges, vous vous rendez compte que c'est des gens qui ont en eux énormément de sifat, énormément de qualités. Ainsi était notre prophète alayhi salatu wassalam. Au moindre contact avec son prochain, les cœurs étaient immédiatement conquis. Et ceux qui étaient conquis et sincères acceptaient le dîne immédiatement. Et ceux qui étaient conquis mais qui n'étaient pas sincères, qui recherchaient plutôt l'honneur et voulaient rester dans le système tribal à l'époque et garder leur fierté, ainsi de suite, eux se détournaient tout en étant convaincus que ce qu'ils disaient c'était la vérité. Et ainsi étaient les anbiya alayhim salatu wassalam. Lorsque Pharaon converse avec Moussa, depuis le début, les Moufassins disent Pharaon avait compris que Moussa alayhi salam était sur le droit chemin. Mais la fierté, c'était son royaume qui le tenait à cœur, et au moment de mourir, c'est là qu'il a dit que j'atteste qu'il n'y a pas de Dieu à part Allah, mais c'était une attestation qui était trop tard. Ainsi pour Abu Jahl, pour Abu Lahab et tous les ennemis du prophète alayhi salatu wassalam, ils avaient vu cette vérité à travers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y avait en lui makarim al-akhlaq, un haut niveau de bon comportement. Et wayakrahu sifsafaha, et Allah déteste vraiment les personnes qui ont un mauvais akhlaq, un mauvais comportement. Ce n'est pas pour rien si le prophète alayhi salat wa sallam nous rappelle que la chose qui pèsera la plus lourde dans la balance le jour de Qiyama, c'est al-khuluqul hasan, le bon comportement. Le bon comportement, c'est ce qui pèsera le plus lourd dans la balance, à condition, bien sûr, que ce bon comportement soit accompagné des bonnes œuvres. Ça rejoint le verset qu'on avait expliqué au Latani récemment, وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ. Le verset qui décrit c'est quoi la bonne parole qui est mise par Allah, mais dit que وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ, la bonne action élève le bon comportement. C'est-à-dire, un bon comportement sans bonnes actions, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'apporte rien. Tout comme de bonnes œuvres, mais avec un mauvais akhlaq, ça ne t'apporte rien parce que tu auras à rendre des comptes pour tout le mal que tu auras fait aux gens de ce monde. Mais la personne qui accomplit ses bonnes actions, ses prières, ainsi de suite, et qu'en plus de ça, cette personne se part du meilleur des akhlaq, du meilleur des comportements, ça c'est une personne qui est aimée par Allah, Azza wa Jal. On va s'arrêter à l'inchallah. On reste dans nos 30 minutes prévues. En fait, on n'a pas eu l'occasion de développer Inna akramakum indallahi atqakum. Laissez-moi juste vous lire les notes qu'on a prises donc en français, et on commentera la prochaine fois ce verset qui rappelle donc l'égalité des races et que les plus aimés ce sont ceux qui sont les plus pieux. Le sens de la vie de l'être humain, dans sa diversité, c'est-à-dire que tu sois blanc, noir, quelles que soient les races, c'est de se soumettre à Allah avec piété et bienveillance envers les créatures. C'est-à-dire, quel que soit ton statut social et ainsi de suite, quelles que soient tes origines, tes ethnies et ainsi de suite, pour que tu concrétises le but de ta création, c'est que tu te soumettes à Allah Azza wa Jal et tu agis correctement avec les créatures d'Allah. Deuxième enseignement qu'on commentera la prochaine fois, c'est que l'égalité des races est citée comme une évidence de ce verset, tout comme cela a été cité qu'Allah nous a créés. Le verset commence par « Ya yuhannas wa inna khalaqnakum »« Ô homme, nous vous avons créés ». C'est une évidence que c'est Allah qui nous a créés, et ça c'est accepté de tous. Ben, c'est également une évidence qu'Allah nous a créés d'ethnies différentes, mais que les plus nobles, ce sont les plus pieux. Cette égalité entre les hommes et le fait qu'on se démarque uniquement par la piété, c'est au même niveau d'évidence, parce que cela découle d'un verset qui commence par quelque chose qui est accepté de tous. C'est complexe ou c'est compréhensible? C'est compréhensible. On détaillera la prochaine fois. Et les deux derniers points, jamais une personne n'atteindra un degré de noblesse auprès d'Allah uniquement avec ses bonnes œuvres, ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ou uniquement avec ses bonnes actions, mais il faut combiner les deux. Et le paroxysme de la condition humaine, le plus haut niveau, le summum de la condition humaine, c'est lorsque tu remplis ton rôle de ce dunya. Tu concrétises le but pour lequel tu as été créé, c'est l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Tout ça, on peut extraire de ce verset qui est magnifique, qui doit être pour nous un guide. Qu'Allah, dans sa clémence, donne la possibilité une prochaine fois de travailler le tafsir de ces différents versets et d'essayer d'avancer et d'essayer, Inch'Allah, de voir la beauté des versets du Coran. Sincèrement, si nous imprégnons nos cœurs de la beauté des versets, ben nous trouvons le salat al-mustaqim. Et je vous assure, il y a des fois où il est mieux de ne pas regarder le musulman, parce que nous risquons d'être déçus. Parfois, il y a des personnes que vous considériez comme quelqu'un de bien, mais après, on se rend compte que la personne a fait quelque chose de mal ou qu'il y a des manquements et on est déçu. Mais on est déçu d'un être humain. Mais si vous voulez toujours être convaincu et être illuminé par la beauté du dîn, c'est à travers les versets du Coran. Subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursaleen, wa alhamdulillahi rabbil alamin, jazakumullahu khairan.